écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur présente
Science et conscience.
François Conneau.
Oui, bonjour. Dans l'une de nos émissions, nous avons abordé le rapport qu'il pouvait y avoir entre les fameux multiverses, très à la mode, et les très grands nombres. Ces notions de très grands nombres défient en réalité notre entendement. Alors quand je parle de très grands nombres, je ne parle pas des fumeux big data, objet de la non moins fumeuse data science, dont les grands nombres n'étonnent en fait ni les astronomes, ni les chimistes, ni même les physiciens. Ce qu'on appelle aujourd'hui le big data n'est qu'un autre nom pour la science des statistiques. C'est juste un néologisme consistant simplement à faire croire qu'on a inventé quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas de ces grands nombres-là dont nous voulons parler. Par exemple, le big data, quand on parle des bases de données de Google ou de l'inventaire des profils d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, ça constitue certes des ensembles de données de taille considérable, mais la fascination de ceux qui n'ont jamais fait de mathématiques devant des milliers de milliards de données, ou des millions de milliards de données, ou même de milliards de chiffres, ne traduit en réalité qu'une ignorance de l'histoire des sciences. Lorsque le grec Démocrite, il y a plus de 25 siècles déjà, a évalué la première fois la taille d'un atome simplement en mesurant une flaque d'huile laissée par une amphore qui avait été déversée dans un port grec, eh bien il avait trouvé avec les unités de cette époque, c'est-à-dire les pieds, les pouces, les coudées, quelque chose qui était de l'ordre du millième de milliardième. Ah ouais, on était déjà dans le big data à l'époque. Au 19e siècle, lorsque le chimiste Avogadro a évalué le nombre de ces mêmes atomes dans une goutte d'eau, eh bien, il a trouvé que c'était de l'ordre de la dizaine de millions, de milliards d'atomes par goutte d'eau. Donc là, on était déjà loin devant le big data, aujourd'hui très à la mode. Non, en fait, quand un mathématicien aujourd'hui parle de très grands nombres, ben, on est même au-delà de ce que la physique, l'astronomie ou même la chimie peuvent nous fournir d'exemples pour les visualiser. Même le nombre total d'atomes dans l'univers est très en deçà des nombres dont parlent les mathématiciens quand ils parlent de très grands nombres. Mais existe-t-il un moyen de nous en faire au moins une petite idée de ces très grands nombres, de les effleurer, même en poésie, même en rêve? Alors la réponse est oui. Et bien que nous soyons à la radio, je vous invite aujourd'hui à une expérience visuelle qui est la visite ou l'exploration des fractales. En fait, on va passer par les fractales pour comprendre ces histoires de très très grands nombres. Les fractales, si vous ne les connaissez pas, ce sont des objets géométriques qui ont été découverts accidentellement à la fin du 19e siècle par des mathématiciens comme Georges Cantor ou Karl Weierstrass. Ces fractales décrivent des objets géométriques caractérisés par leur irrégularité. Et cette irrégularité de ces objets est telle que la représentation graphique de ces objets, en tout cas quand ils ont été découverts au 19e siècle, était quasiment impossible. Prenons un exemple très simple, celui de l'escalier du diable de Georg Cantor. Vous imaginez un bâton qui fait une longueur unité, par exemple un mètre de long. Vous lui enlevez son tiers central, puis vous recommencez la même opération sur les deux bouts qui vous restent dans les mains. Et puis ainsi de suite, à l'infini. Chaque fois qu'il vous reste un morceau, vous lui enlevez son tiers central. Cette opération ne laisse, si vous continuez, à la fin qu'une poussière de morceaux de bâton. Et pourtant, cette poussière de morceaux de bâton qui vous reste, Georg Cantor démontre que si vous avez attribué au départ à votre bâton un poids de une unité, à chaque fois que vous l'avez coupé en deux, vous avez attribué un poids de 1/2 aux deux suivants. Puis quand vous avez recommencé, vous aviez 4 morceaux, vous leur attribuez un poids de 1/4. Puis quand vous recommencez encore, un poids de 1/8 aux 8 morceaux suivants, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus vous découpez le bâton, plus les morceaux sont fins, mais la somme des poids reste constante. Et donc, lorsque l'on va définir une autre fonction, que Cantor appelle la fonction escalier, il dit au départ, ma fonction est vaut 0 au début du bâton et 1 à l'autre bout du bâton. Et au fur et à mesure que l'on découpe le bâton en morceaux, on recommence l'opération. On grimpe à chaque fois qu'on rencontre un poids, on continue de monter. Cantor a montré qu'à la fin de l'opération, si tant est qu'il y ait une fin, parce qu'on le découpe à l'infini, vous montez toujours de une unité, si ce n'est que l'escalier que vous utilisez devient complètement invisible. Vous obtenez à la fin un escalier qui monte toujours d'une unité, mais dont les marches sont nulle part. C'est l'escalier du diable. Alors, de tels objets ont choqué à l'époque. Poincaré, le mathématicien français, disait qu'il fallait les bannir de l'étude, du champ des mathématiques. Il a fallu en fait attendre les premiers ordinateurs et le mathématicien français Gaston Julia, puis l'ingénieur français Benoît Mandelbrot dans les années 1970, pour leur trouver un intérêt. Alors, je ne veux pas définir ici l'ensemble de Julia ni l'ensemble de Mandelbrot, vous les trouverez sur la Wikipédia. On s'imagine seulement ici qu'il s'agit de découpage, alors non pas du bâton unité comme l'histoire de l'escalier de Cantor, mais du disque unité. Vous imaginez un disque qui fait une unité de diamètre et vous découpez ce disque d'une certaine manière. et vous allez, un peu comme l'escalier du diable, à la fin obtenir une espèce de poussière un peu bizarre. Et ça aboutit à des figures planes que l'on ne peut finalement dessiner qu'à l'aide d'ordinateur, parce qu'à la main, ça sera impossible ou ça n'aurait aucun intérêt. Et aucun humain ne peut les tracer. Et la grande surprise était leur beauté de ces figures, l'ensemble de Julia, l'ensemble de Mandelbrot. Cette beauté était étrange, nouvelle, inconnue, dans le monde même des arts graphiques. Benoît Mandelbrot les a dénommés les fractales. Alors, elles ont connu à l'époque un succès retentissant. Des cartes postales, des posters, des gadgets, des goodies, des t-shirts, des casquettes fractales de Mandelbrot. Voilà, en tout genre, tout ça, c'est devenu un véritable goodies business. Et pour la première fois, une découverte en mathématiques pure, une découverte sophistiquée, faisait rêver le grand public par la poésie et la beauté qu'elle inspirait. Donc, longtemps, ces fractales restèrent cantonnées au plan. Hein, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, dans ces ensembles de Julia ou de Mandelbrot, eh bien, on prend un disque unité, on le découpe d'une certaine manière et on obtient toujours des objets qui sont en deux dimensions, dans le plan. Et puis en 1997, un amateur, plutôt d'art graphique en informatique, qui s'appelait Jules Ruiz, a imaginé de construire une extension de l'ensemble de Mandelbrot. Alors non pas en trois dimensions, parce que tout le monde avait déjà essayé et c'était impossible, mais il a découvert qu'on pouvait l'étendre en quatre dimensions, puis ensuite reprojeter des coupes de cet ensemble de Mandelbrot en trois dimensions, en trois dimensions, justement. Alors, à l'époque, quand il a montré que c'était possible, les ordinateurs n'étaient pas encore assez puissants et les programmes n'étaient pas encore assez au point, mais en 2009, les informaticiens Daniel White et Paul Nylander sont parvenus à programmer la découverte de Jules Ruiz et ils ont appelé Mandelbulb, M-A-N-D-E-L-B-U-L-B, si vous le cherchez sur Internet, ils ont appelé Mandelbulb l'objet ainsi créé. Alors, si vous voulez le voir, ce Mandelbulb, ou plutôt partir dans son exploration, il vous faudra un logiciel. Vous n'allez pas acheter une carte postale, ni un mug, ni un t-shirt, il vous faudra un logiciel, parce que l'objet ne se dessine pas. Alors, vous avez deux programmes aujourd'hui en open source qui s'appellent le Mandelbulber ou Mandelbulb 3D. Voilà, ce sont des open source qui vous permettront de voyager dans ces objets qui sont en fait de véritables univers. Au départ, ça se présente comme des espèces de tubercules un peu bizarres, vues de loin, mais en fait, l'intérêt, c'est de rentrer dedans et de partir les explorer, et on peut zoomer dedans à l'infini. On peut zoomer dedans à l'infini, c'est bien ça qui est intéressant. Donc, ce sont des sortes de... L'escalier du diable, j'en ai parlé tout à l'heure, était déjà étonnant. L'ensemble de Mandelbrot était déjà beau, mais ces fractales en trois dimensions que programment les informaticiens d'aujourd'hui sont de véritables voyages au fond des très grands nombres. Donc allez-y, je vous y engage. Laissez-vous bercer. Explorez-les même en famille. Moi, je l'ai fait, explorer en famille. Et si l'utilisation d'un logiciel vous fait peur, ben, allez visiter les galeries des grands artistes qui aujourd'hui leur consacrent des œuvres. Alors, je vous conseille d'aller voir, par exemple, le site de Hal Tenney, donc H-A-L et plus loin T-E-2-N-Y, Hal Tenney, c'est un infographiste américain, ou encore de Julian Horst-Huis. Alors, Horst-Huis, c'est H-2-O-R-S-T-H-U-I-S. Lui, c'est un infographiste hollandais. Et leurs sites sont hallucinants. Ils vous font visiter des fractales 3D. Vous pouvez même faire des visites en réalité virtuelle. Et pensez à eux. Hein. Aujourd'hui, les majors du cinéma font appel aux deux artistes que je viens de vous citer. Par exemple, si vous avez vu Gardien de la Galaxie 2, eh bien, la deuxième partie du film se déroule dans la planète Ego. Eh bien, la planète Ego et son décor fascinant, eh bien, c'est une fractale 3D qui a été définie et calculée par Hal Tenney. Voilà. Si vous avez vu le dernier Doctor Strange, eh bien, les combats dans le multiverse, eux, sont dus aux univers fractales de Julian Horst-Huis. Voilà. Donc, on est encore dans des fractales tridimensionnelles de nouveau. Et là, vous toucherez du bout du doigt la véritable magie et la poésie des très grands nombres. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.